Donc le psaume 11, au chef des chantres, David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice, le partage. C'est leur partage, le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Ainsi la parole du Seigneur. Le psaume 11, et bon, il faut un titre pour nos messages, on nous a dit, et je prends celui-ci, il est bon, il est mauvais, vous en jugerez vous-même, la résolution du chrétien, ou la résolution de l'enfant de Dieu, puisque chrétien c'est plus néo-testamentaire, n'est-ce pas? Et là nous sommes dans l'Ancien Testament. Le premier verset de ce psaume nous dit que l'auteur est David. Et en fait, il n'y a pas de raison de douter de cela. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il a écrit ce psaume. Et on ne sait pas non plus à quel moment dans sa vie le psaume fait référence. Vous avez vu un peu les circonstances qu'il mentionne. Plusieurs périodes peuvent correspondre. Certains pensent que c'est à tel moment, par exemple, la fuite devant Saül, quand il était pourchassé, avant d'être officiellement roi. D'autres pensent que c'était plutôt quand il fuyait devant Absalom. On ne sait pas vraiment. Et on peut simplement en conclure que même David, le psalmiste, le doux chanteur d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, l'ancêtre de Christ, selon la chair, même lui n'était pas exempt de difficultés dans sa vie. Et personnellement, je pense que c'est à dessein que l'Éternel n'a pas donné le détail. Quelquefois dans les psaumes, dans l'introduction du psaume, il est dit, David a composé ce psaume quand il fuyait ou quand les Ziphites sont allés voir Saül ou ainsi de suite, hein, ou quand il est allé, quand Nathan est allé le voir après son péché avec Bathsheba. Mais ici, ça n'est pas dit. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des crises. Mais la vie du croyant, dans ce monde, c'est toujours une crise. Il n'en est pas toujours nécessairement conscient. Ce n'est pas nécessairement un moment de guerre ouverte. Mais c'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre. Et c'est ce qu'on va voir, en gros. Et je pense que Dieu veut montrer quelque chose en ne dévoilant pas la période qui est concernée par ce psaume. C'est la vie du croyant. Donc, le psaume, ici, on va prendre quatre points. Quatre. Déjà, on va voir que le psalmiste mentionne une situation difficile. Et puis, ensuite, il exprime une tentation insidieuse, vicieuse même. Et cette tentation débouche sur une réaction courageuse. Et c'est là qu'on va voir vraiment le cœur. Et puis David peut répondre de cette manière-là parce qu'il a un appui immuable. Oui, cinq points. Parce qu'en faisant cela, il nous donne une image prophétique. Une image prophétique. Ah, c'est assez simple, vous voyez. Et en fait, quand on regarde le psaume, ça décortique bien ces quelques versets. Une situation difficile. Alors, on a l'introduction là au chef de chantre, David. Et puis, David nous donne, comme il le fait souvent, il fait le contraire des auteurs modernes. Hein. On garde un suspense aujourd'hui. Ben, lui, il donne la réponse tout de suite. Voilà ce qu'il a appris. Et voilà pourquoi il a écrit le psaume. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Voilà, vous voulez une description du croyant, du vrai croyant en Christ, vous l'avez là. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît la théologie ? Il connaît la théologie, certains, oui, pas toujours. Il la connaît dans son cœur, d'une manière plus que sa tête. Hein. Mais voilà, celui qui est vraiment croyant, c'est celui qui cherche en l'Éternel un refuge. Un refuge. C'est l'endroit où il ne peut pas être atteint. C'est un mot un peu spécial qui est utilisé là. Mais bon, on va laisser ça de côté pour le moment. Quelqu'un, et alors David maintenant arrive dans le développement du psaume. Quelqu'un est en train de parler à David. David nous rapporte ses paroles. On ne sait pas de qui il s'agit, mais on peut lire ses paroles. Donc, est-ce que c'est un conseiller, probablement, ou des conseillers ? Il y a toujours des bons conseillers quand il y a des moments difficiles. Et la première chose qu'on remarque, d'après les paroles de ces ou ce conseiller, c'est qu'il y avait autour de David, à l'époque, une situation difficile. Regardons. Les méchants bandent l'arc. C'est-à-dire que l'arc, en fait, il est tiré. Et même à cette époque-là, enfin, moi, je n'ai jamais fait de l'arc. Est-ce que vous, les jeunes, là, vous avez fait le tir à l'arc, non ? Ouais. C'est simple, non ? Il faut des biscottos, hein, ce n'est pas avec du yaourt. Hein. Non. Et donc, quand on tire l'arc, on ne va pas rester là une heure. Hein. La flèche, elle part. Voilà, c'est l'image, là. Hein. Ils bandent l'arc, ils ajustent leur flèche sur la corde, c'est-à-dire la flèche est déjà en place. Donc, il y a une situation difficile. Et puis, ce n'est pas simplement difficile, mais c'est très difficile, parce qu'ils vont tirer. Alors ici, c'est traduit « dans l'ombre », c'est-à-dire qu'ils vont tirer de façon cachée. C'est un piège, vous voyez ? Alors bien sûr, quand on veut tirer sur quelqu'un, on ne va pas lui dire « attention, c'est moi hein ». Non, ils vont tirer sur l'ombre, mais regardez, c'est une difficulté qui est encore plus profonde. Ils vont tirer sur l'ombre, sur ceux dont le cœur est droit. Et là, on est tout à fait dans la lutte spirituelle qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, Éphésiens chapitre 2, dans les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, l'être naturel, l'être humain au naturel, il est la lumière. Il préfère les ténèbres. Et le mot qui est utilisé en Éphésiens, dans ce passage-là, c'est qu'ils aiment les ténèbres avec l'amour que normalement on doit avoir pour Dieu. Cette haute forme d'amour. Vous connaissez les différents mots et tout cela. Donc ici, nous avons cette situation, vous voyez. Il y a des choses qui menacent les croyants. Une situation difficile et imminente. Et tout de suite, on pense à une situation de soldat qui se prépare pour la bataille. Et c'est proche, c'est sur le point. La guerre est sur le point d'éclater, si on peut dire. Mais en fait, on n'est pas en présence de soldats, on est en présence des méchants. Et là, on voit qu'il y a cette antithèse, cette opposition. Dans l'Ancien Testament, ce terme, les méchants, désigne toujours ceux qui sont gouvernés par la méchanceté de leur cœur, c'est-à-dire par l'état naturel de leur cœur. Pour être méchant, il n'y a pas besoin d'apprendre la méchanceté. De la même manière que quand on a un enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre non. On passe du temps à apprendre oui, mais pas non. Toujours ceux qui sont gouvernés par la méchanceté de leur cœur. Et bien sûr, ici, c'est exactement cela parce qu'ils visent les justes. C'est intéressant que le méchant, l'homme au cœur naturel, ne peut pas supporter la justice de Dieu. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une conscience dans son cœur. Et la justice de Dieu, qui se voit chez ses enfants, condamne et convainc le méchant. On ne va jamais en enfer par ignorance. Jamais. On sait. L'être humain le sait. Donc on a ici le sentiment d'un conflit très âpre qui se prépare, un conflit qui est rempli de ruses vicieuses. Ça va être l'arme principale. Et ça, c'est l'arme du monde. L'arme du monde. Il ne faut pas oublier la chose. La cible, ceux qui ont le cœur droit. Et souvent dans les psaumes, cette expression désigne les élus, ceux qui ont le cœur droit. Et tout de suite, on est en présence du fait que, dans la Bible, celui qui a le cœur droit n'a pas le cœur droit parce qu'il a rectifié son cœur. Ça, c'est le moralisme. Ça, on trouve ça dans des tas de livres de psychologie et autres philosophies, et ainsi de suite. Non. Le juste est juste à cause de la justice que Dieu a fournie. On vient de voir ça avec les jeunes, n'est-ce pas? Enfin, on en profite, hein, on est jeunes. C'est une justice qui vient du dehors. Pour reprendre l'analogie, la pièce ternie ne peut pas se nettoyer. Elle ne peut pas, elle cherche à se nettoyer, elle ne peut pas. Et il faut le vrai produit. Et le vrai produit vient d'en haut. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Voilà. Donc, les élus, ceux qui sont droits, ne sont pas droits par eux-mêmes. Et cela nous lance un défi, il faut le dire. Et c'est important de souvent revenir à ce défi. Pourquoi? Parce que notre cœur est trompeur et aujourd'hui, il y a une situation de confusion énorme, même dans le monde religieux, et j'irais même jusqu'à dire dans le monde évangélique, une situation de grande confusion, parce qu'il y a un grand illettrisme biblique. On ne connaît pas la Bible. Beaucoup. Vous vous rappelez cette mention que je fais quelquefois, là, cet endroit où je suis allé prêcher, alors j'ai demandé, il y a plusieurs centaines de personnes, « Est-ce que vous avez des Bibles ?» Et alors, il y avait 3 Bibles. C'était pas mal, hein. Là, il faut vraiment, on se tient chaud, hein, en regardant sur les Bibles. Mais si on allait dans les réunions normales de cette assemblée, il n'y avait pas besoin de s'embarrasser d'une Bible. Alors, effectivement, le pasteur, il allait citer des bribes de passages bibliques. Oui, oui. Alors, c'était intéressant que, une fois, parce qu'il fallait qu'il parle bibliquement, alors on discutait dans son bureau avant, et alors il a commencé par un verset, cité un verset, puis arrivé au milieu du verset, il avait oublié comment ça se terminait, pauvre homme. Alors nous, on n'est pas très plein de compassion, on l'a laissé faire. Alors il a terminé par un autre qu'il a réussi à trouver dans les brumes de son cerveau. Mais il y a un illettrisme biblique. Et donc il est important pour nous de nous mettre face à la vérité. Si je pense que je suis droit, c'est-à-dire si je pense que Dieu peut m'accepter d'une manière ou d'une autre, dans une certaine mesure, parce que j'ai remis ma vie d'aplomb, en quelque sorte, hein, bien sûr, pas la perfection, hein, mais comme disait un autre ami assez jésuite, « À l'impossible, nul n'est appelé. » Mais si Dieu nous appelle à l'impossible. Eh bien, si je fais reposer mon standing devant Dieu sur quoi que ce soit que j'ai pu faire, eh bien, mes amis, je suis sur une voie sans issue qui n'est pas la voie biblique. Et il se pourrait très bien que je me réveille en enfer. En enfer. Parce que je me couvre de feuilles plutôt que de la justice de Christ. Donc, c'est important de souligner ici. Le méchant, c'est celui qui est gouverné, qui est entraîné par la méchanceté de son cœur, c'est-à-dire tout être humain, par nature. Mais le juste n'est pas un juste par nature ou par ce qu'il fait. Oui, ce qu'il fait maintenant va montrer que Dieu a fait quelque chose en lui. Mais il est juste parce que Dieu l'a revêtu de la justice de Christ, la justice qu'il a fournie. Avançons, avançons. C'était des parenthèses tout ça, importantes. Et si on va un peu plus loin dans le passage, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement une opposition. C'est-à-dire, bon, vous savez, il y a la difficulté. Nous, on représente, parce que souvent on est du côté des bons, hein, on va représenter Dieu et la justice et tout ça, et puis les méchants, alors il y a la guerre. Ça, c'est un dualisme un peu trop simple. Ici, la situation qui est décrite, c'est quelque chose de plus profond. La gangrène est allée beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la méchanceté et toute la déclinaison de la méchanceté, hein, la corruption, vous comprenez, hein, toutes ces choses qui accompagnent la méchanceté, sont en train d'engouffrer toute la société. Et maintenant, la société fonctionne selon les produits de la méchanceté, selon la corruption, selon le mensonge, selon toutes ces choses. Alors, vous voyez qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas inventé la situation actuelle. C'est pour ça la beauté de la Bible. Vous avez un homme, il a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Ai-je besoin de rappeler qu'il y a déjà 2 millénaires depuis Jésus-Christ? Et cet homme, il nous décrit exactement ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? On a eu des promesses. J'espère que vous avez profité des promesses depuis quelques mois, hein, parce que demain, c'est fini. Il n'y a plus de promesses demain. Hein. C'est fini. Parce que le monde ne peut pas donner plus de promesses. Donc ici, on a cette situation. Regardez, quand les fondements sont renversés, n'est-ce pas ça? Franchement, moi, je regarde, je reçois des nouvelles, des choses comme ça, des églises, des mouvements et des actions évangéliques. Et on peut dire la même chose. Quand les fondements sont renversés aujourd'hui. Par exemple, tout petit exemple, on vous dit, vous allez au culte comme ça, vous avez un sermon, quelqu'un va vous dire, eh bien, crois en Jésus-Christ et tu deviendras une brebis. Les fondements sont renversés, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit noir sur blanc, Jésus-Christ dit lui-même aux pharisiens, aux religieux, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez, les fondements ont été renversés. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et vous voyez un peu la situation? En fait, les conseillers sont autour de David. David est probablement roi. Hein. Ils sont autour de David et c'est le roi d'Israël. Et ils sont en train de lui dire, les carottes sont cuites. Hein. C'est fichu. On ne va pas pouvoir redresser la situation. On ne peut pas. Et c'est pour ça qu'ils lui disent, fuis dans vos montagnes. C'est un petit peu difficile à traduire, il faut le dire. Comme un oiseau. Sauve-toi. Sauve-toi. Et vous savez, ils ont raison. Ils ont raison. David ne peut pas retourner la situation. David a vécu tout son temps et il a cherché à servir l'Éternel et il l'a bien servi dans toute la faiblesse de son imperfection. N'est-ce pas? Mais Salomon déjà, regardez comment ça se finit. Et Roboam, et combien de rois il faut avant que le royaume se divise? Il n'y a pas besoin de compter sur les doigts de la main, n'est-ce pas? Donc, en fait, les conseillers ont raison. L'homme ne peut pas remettre les fondements d'aplomb. Une situation difficile, et je dirais une situation impossible. Impossible. Non, les fondements sont renversés. On se trouve dans une situation difficile. Les cœurs se liquéfient sous la pression de la crainte. Et je ne sais pas si vous avez jamais expérimenté ça, mais peut-être avec les années qui passent, on commence à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Même au niveau naturel, au niveau sociétal, on se dit, mais quelle société est-ce qu'on prépare pour nos enfants? Il y a même des gens, moi j'ai connu, hein, En particulier, il ne voulait pas avoir d'enfant à cause de cela. Voilà la société que je vais lui offrir. Non, ce n'est pas la peine. Bon, c'était autre chose, ça. Et dans cette situation, qu'elle soit sociétale, mais surtout spirituelle, par rapport à l'avancement du royaume de Dieu, beaucoup dans le peuple de Dieu se laissent prendre par la crainte, par la panique. Et on voit ces gens-là, ces conseillers qui s'approchent de David, qui disent « Mais fuis, fuis. Maintenant, on va se réfugier dans les montagnes, on va faire cette sorte de société parfaite, ou cette petite église parfaite, vous voyez. Je vais maintenant m'occuper moi-même de ma croissance dans la grâce et tout cela. » Et j'ai mes sermons, j'ai ma connexion et tout ça, je peux tout ça. Fuis, fuis, n'est-ce pas? Ces gens-là lancent à David une tentation vicieuse, insidieuse, par derrière, vous voyez. Leur conseil est tout à fait logique, plausible, mais il est trompeur, il est trompeur. Donc David nous a rapporté les propos de ses interlocuteurs et eux ont analysé la situation, comme je viens de le dire, et ils tirent la conclusion, fuis dans nos montagnes. La situation empire, elle devient même dangereuse. Ils sont en train de bander l'arc. Ce n'est plus la peine de résister à grand prix, à grand risque. Au contraire, prends refuge au loin et là tu pourras vraiment grandir dans le Seigneur, on pourrait dire, par exemple. Prends la fuite, tu n'y peux plus rien. La situation est désespérée. Et dans les moments de trouble, il y a toujours des conseillers pour donner des bons conseils comme ça. Alors attention, ce n'est pas toujours les autres. Ce n'est pas toujours les autres. En moi-même, je peux me donner ce conseil. Parce qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui n'aime la bagarre. Et ceux qui peut-être aiment la bagarre devraient cesser de l'aimer. Non, on préfère avoir le calme. Et on a toujours ces moments de bons conseils. Or, cette suggestion des conseillers de ces fins politiques à David, en fait, c'était une tentation insidieuse. Pourquoi? Pourquoi? Mais tout d'abord, comme je l'ai montré, elle semble plausible et elle est très réfléchie. Les pires tentations ne sont pas celles qui se voient, mais c'est celles qui se déguisent. Il y a quelque temps, je ne sais pas si les enregistrements ont marché, mais nous avons regardé le prophète Agé. On vient de terminer. Eh bien, les Juifs, les Israélites à l'époque, se disaient quelque chose qui semblait très juste. Ce n'est pas le moment pour la construction du temple. Vous connaissez le passage. Très certainement, vous avez entendu le message là-dessus. Ce n'est pas le moment. Et tout le monde était d'accord. Parce qu'il y avait l'opposition, ils étaient peu, ils n'avaient pas d'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Dieu vienne et leur dise, mais attendez... Ça n'est pas le temps, mais vous avez quand même du temps pour vos maisons. Vous voyez? Donc, les pires tentations sont celles qui se déguisent, qui prennent c'est un peu les bondieuseries, qui prennent une logique qui semble biblique, mais qui n'est pas divine. Il faut faire attention. Le diable n'est jamais aussi dangereux que quand il se montre un ange de lumière. Parce qu'attention, un ange de lumière, vous comprenez? Quelqu'un qui vient et qui annonce ce que le Père des Lumières dit. Eh bien, il faut l'écouter. Mais Satan peut se déguiser en ange de lumière. Donc, il faut tester les esprits. Donc, vous voyez, il y a cette difficulté. Donc, la tentation est insidieuse parce qu'elle est plausible. Mais la tentation, là, elle est insidieuse et vicieuse parce qu'elle prend seulement en compte la mesure des méchants. Regardez, il faut fuir, pourquoi? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ont des armes, et ils sont en train de se mettre en position d'attaquer. Et ils ont la flèche dans la corde, et ils vont le faire de façon secrète. de façon cachée. Donc, vous voyez, c'est la mesure des méchants. C'est tout ce dont il est fait état, le danger. Des méchants qui s'agitent, qui sont puissants, armés, trompeurs. Ils vont détruire le juste. Le conseil de ces gens ne voit que le danger. Mais, en parlant des justes, ils ne semblent même pas réaliser qu'est-ce que c'est que ces justes. Pourquoi ils sont justes? Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ne voient pas cela. Ils regardent seulement le terrestre. Et ça, c'est le problème, n'est-ce pas? Souvent, on va regarder des situations qui sont difficiles. Pas nécessairement dangereuses, mais difficiles. Et on va commencer à réfléchir. Peut-être vous ne faites pas ça, mais moi, je le fais suffisamment pour nous deux. Et vous commencez à réfléchir et tout ça. Et au bout d'un moment, vous arrêtez, si le Seigneur vous fait grâce. Et vous arrêtez. Mais toute la réflexion qu'on a eue a été terrestre. Terrestre. On n'a jamais pris en compte le fait qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et ça, c'est le problème de ces conseillers. Le croyant doit toujours se préoccuper de garder à l'esprit cette dimension céleste dans laquelle il est entré par la grâce. Il n'est pas juste par son seul pouvoir. Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé des justes dans ce monde de fous? Est-ce que vous avez jamais posé la question? Et n'allez pas me dire que c'est pour évangéliser. Ça, c'est une partie. Non? Pour glorifier son nom. Et Job, sur son tas d'immondices, avec ses ulcères et tout ça, il glorifie Dieu. Non? Vous lisez de chapitre 38 à 42, vous voyez comment il a glorifié Dieu par ça, et ainsi de suite. Donc vous voyez, qu'est-ce que Dieu fait? Une tentation insidieuse, elle ne prend pas en compte ce que Dieu fait. Maintenant, voyons une réaction courageuse. Réaction courageuse. Et ça, c'est vraiment le pivot dans le psaume. Regardez, le juste, quand les fondements sont renversés, que ferait-il? La seule chose qu'il peut faire, prendre en compte ce que les conseillers ont oublié. Regardez. L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Vous vous rappelez cet épisode quand le prophète est à Samarie et il y a le roi de Damas, c'est ça, qui est venu pour assiéger la ville de Samarie. Et le matin, ils se lèvent tous et voilà la ville pendant la nuit a été entouré des armées, grandes armées, et tout ça. Et le serviteur du prophète, il est paniqué, n'est-ce pas? Il est paniqué. Il dit, mais mon Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Parce que ses yeux ne voient que les armées dans la vallée. Mais il y a d'autres armées, n'est-ce pas? Et voilà où est David, l'Éternel. Dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Mais même ici, je suis certain que comme moi, pendant longtemps, vous avez glissé sur ça, vous avez dit, mais oui, Dieu est souverain, il règne, n'est-ce pas? Ça n'est pas ce que David dit. David commence par dire, l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est avec son peuple. La proximité de Dieu, c'est plus merveilleux, je dirais, que la souveraineté de Dieu. Beaucoup de gens croient dans la souveraineté de Dieu. Il suffit d'avoir des yeux, n'est-ce pas? Mais la proximité de Dieu. Et c'est seulement dans le temple. Là, on parle du temple, c'est peut-être anachronique, parce que c'est probablement encore le... Enfin, oui, c'est encore le tabernacle. Mais ce n'est pas important. Parce que c'est ce qu'il y a dedans. Et dedans... Dieu, quand il est dans son Saint-Temple, ça veut dire qu'il est en paix avec son peuple. Il est en paix avec les siens. Pourquoi? Parce que le temple, ce n'était pas simplement une maison où on venait faire certaines ablutions, certaines cérémonies rituelles. Non! Le temple, c'est là qu'il y avait quelque chose au milieu, caché, séparé, où Dieu faisait la paix. Vous rappelez cette arche qui était là, ce coffre de bois d'acacia, hein? Il avait un couvercle qui s'appelait le propitiatoire. C'est là que Dieu était rendu propice. Et comment? C'est là qu'il faisait la paix. Comment? Parce qu'en image, il y avait le sang qui était versé. Une fois l'an, le souverain sacrificateur allait derrière le voile, un voile lourd qu'on ne pouvait pas traverser, qu'on ne pouvait pas franchir. Vous voyez? Il y allait, mais il n'y allait pas n'importe comment. Déjà, lui-même avait dû expier pour ses péchés, mais là, il portait le sang. Et le sang était répandu sur le propitiatoire. Pour David, ça, c'est ça. Vous voyez? Ce qui est important, c'est que Dieu est proche. Et celui qui est proche, il est en paix. Dieu est dans son Saint-Temple. Ce n'est pas simplement le temple de Diane, la déesse Diane. Ce n'est pas le temple même d'Hérode. C'est le Saint-Temple de Dieu. C'est-à-dire là où la justice, la sainteté et l'amour de Dieu s'embrassent, dans le sang. Pas le sang des animaux, non, 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 non. Parce que sinon, comme Hébreu le disait, sinon, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté les sacrifices. Chaque jour, deux fois par jour, ils étaient répétés pour montrer que ce sang-là montrait un autre sang. Il ne pouvait rien enlever, ce sang-là. Rien du tout. Mais il montrait un sang qui allait venir. Donc vous voyez tout de suite, face à cette situation difficile, cette tentation insidieuse, parce qu'en David, il y avait tout. Il y avait suffisamment de caractère humain pour qu'il s'enfuit. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est un des justes. Et le juste, il voit quoi? Ce que les conseillers ne voient pas. Il voit Dieu, l'Éternel. C'est intéressant que c'est l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de grâce. N'est-ce pas? Et il est dans son Saint-Temple. Est-ce que, pour vous, la souveraineté de Dieu est plus importante que la proximité de Dieu? Parce que la souveraineté de Dieu, mes amis, elle peut s'exercer pour les autres, mais ne pas me toucher. Vous me comprenez? Dieu est souverain sur tout. Oui, 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 nous sommes en vie parce qu'il est souverain. Mais sa proximité peut ne pas me toucher. Il peut ne pas être proche de moi. Rappelez-vous, il fait grâce aux humbles. Ça, c'est repris à trois reprises dans la parole de Dieu. Mais il tient les orgueilleux à bout de bras. C'est une traduction littérale. Hein? Il n'est pas proche d'eux. Est-ce que Dieu est proche de vous? Vous singulier. C'est ça la chose, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est impossible de répondre comme David fait. C'est impossible d'avoir l'appui que David a. L'Éternel dans son Saint-Temple, l'Éternel à son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, il n'y a rien qui soit caché. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Et donc, c'est intéressant, Dieu me voit. Et Dieu ne voit qu'en moi, il n'y a pas de justice. Et que la seule justice qui peut être là, c'est celle qu'il c'est celle dont il m'a revêtu, celle qu'il a fournie. Vous voyez, pour David, il n'avait pas besoin de cacher, il n'avait pas besoin d'avoir des recours, non. Il est à nu devant l'Éternel et c'est sa force. Et c'est sa force. Il n'a pas besoin de jouer les faux semblants. Il sait que l'Éternel sait qui il est. Et même là, Dieu est proche. Il est le méchant. Et en fait, David avait quand même une vision assez exacte de ce que Christ ferait et de qui il serait. Et s'il est le méchant, si l'Éternel est le méchant, alors si il m'a fait grâce et m'a donné la justice, je sais qu'il n'y aura aucune méchanceté qui va rester en moi, à terme. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il est le méchant et celui qui se plaint à la violence. Voilà des gens qui me menacent, mais l'Éternel me défend. Les gens là, ils me guettent dans l'ombre, ils vont venir me tendre un piège et tout ça, mais plus proche encore est Jésus. On a un cantique qui dit ça, n'est-ce pas? Ça me vient à l'esprit juste maintenant. Jésus est plus proche, toujours plus proche. Et il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu de soufre. Mais regardez comment David se lie avec l'Éternel. En fait, c'est très intéressant ce qui se passe dans l'esprit du juste. Il sait qu'il n'est pas juste par lui-même, donc il y a méfiance de lui-même. Est-ce que nous avons la méfiance de nous-mêmes? Mais il sait que Dieu s'est approché en Christ. Il le sait parce que Dieu lui a donné la foi de le savoir. Et en fait, il devient quelqu'un d'autre, parce qu'il est quelqu'un d'autre. Et regardez ce que David dit. « Comment pouvez-vous me dire ?» C'est pour ça qu'en fait le psaume n'est pas en train de donner les paroles de ses conseillers, mais il nous rapporte les paroles de ses conseillers par la bouche de David. « Comment pouvez-vous me dire, mais mes amis, vous ne comprenez pas ? Allez dire ça aux autres, il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux avoir cette réaction courageuse parce que j'ai un appui immuable. » Et en fait, on voit la nature de Dieu, pas la nature essentielle bien sûr, mais la nature de Dieu est devenue la nature du juste. Et lui-même réagit comme l'Éternel réagirait. Psaume 2. Vous connaissez ce psaume. Les rois, les princes se liguent contre l'Éternel, n'est-ce pas? Ils sont pleins de rage. Et ça, c'est une histoire de notre journal. C'est le journal de 20 heures, n'est-ce pas? Hein? Ils sont là. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Dans les cieux. Il rit. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est plus fort qu'eux, c'est parce qu'il a déjà répondu. Il a déjà répondu. L'œuvre est déjà faite. Ils ne peuvent pas même la défaire. Il a déjà prédestiné son oint. Il a déjà revêtu de son onction celui qu'il va envoyer. Le psaume 2, c'est très beau en fait. Et vous voyez, c'est pour ça que David peut répondre avec, il a cet appui immuable. Comment pouvez-vous me dire? Je ne suis pas n'importe qui. Alors David, on pourrait dire, bon, il est le roi d'Israël et tout ça. Non, David, c'était le plus petit dans la famille. On avait même oublié de le présenter à Samuel. C'est lui qui était parti, il devait sentir le bétail. Hein? Ça ne devait pas être très très chouette. Quand il est venu, vous savez, les bergers étaient des gens qui étaient plus que moins méprisés en Israël. On ne prenait pas en compte leur témoignage, par exemple. C'est intéressant comme quoi Dieu a annoncé ces choses en premier aux bergers. Hein? Il y a un humour là, un humour divin. Mais vous voyez, David, non, David il est tout petit. Mais parce que Dieu a fait quelque chose en Christ, dans celui qui va venir, en qui David croit, par la grâce que Dieu lui a donnée, alors il sait qu'il n'est plus n'importe qui. Comment pouvez-vous me dire? Je ne peux pas fuir, ce n'est pas possible. Et rappelez-vous cet autre serviteur. Plus tard, les adversaires viennent le voir et disent « Il faut qu'on passe du temps ensemble à discuter. Il faut qu'on voit ces choses-là. » Vous savez de qui je parle? Néhémie. Il dit « Mais j'ai un grand ouvrage à faire, je ne peux pas, je ne vais pas passer du temps à discuter avec vous, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je travaille à l'œuvre de Dieu. » Vous voyez, c'est ça. Le croyant a cet appui immuable et il est quelqu'un d'autre et il ne peut pas réagir comme les gens du monde. Comme les gens du monde, peut pas. On l'a dit déjà. Mais même le croyant ne peut pas même pécher comme l'homme du monde. Il ne peut pas. Quelquefois, ça va être péché presque de façon plus méchante. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose que le juste ne peut pas enlever. Parce que Dieu l'a mis. Dieu l'a mis. Cet appui immuable, vous voyez, c'est ce Dieu qui est proche parce qu'il a envoyé son Fils qui a fait l'œuvre. Donc si je suis juste aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me suis fait juste, c'est parce que Dieu a fait quelque chose qui lui permet de m'accepter, qui lui permet d'être rempli de grâce. Comme Paul le dit en Romains 3, maintenant c'est le dilemme de Dieu qui est résolu. Il peut être tout à fait juste tout en déclarant juste celui qui n'est pas juste, sinon par la justice que Dieu a fournie. Ça, c'est l'Évangile. Et vous savez, ce n'est pas simplement des doctrines, ce n'est pas simplement un genre de mantra qu'on garde qui nous dit, bon, quand même, ça va être bien pour moi, même si les fondements se liquéfient, si tout se détruit, tout ça, moi, je vais bien me débrouiller quand même, tout ça. Non, c'est un appui dans une situation difficile, dans une situation impossible. C'est un appui quand le cœur est saisi par la crainte. Oui, David n'est pas un surhomme, il est un homme nouveau. Il faut bien faire attention à cela. Mais j'ai dit aussi que David était une image prophétique. Prophétique. Et on revient au fait, en fait, David est une image prophétique, pas en dépit de lui-même, mais sans s'en rendre compte, naturellement ou spirituellement naturellement, si vous voulez me comprendre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher d'être une image prophétique. C'est pour ça qu'il parle du fait que l'Éternel est dans son Saint-Temple, avant de parler du fait que l'Éternel règne sur toute chose et il fait ce qu'il veut. Parce que si l'Éternel règne sur toute chose et il fait ce qu'il veut seulement cela, alors mes amis, il y a de quoi trembler. Il y a de quoi trembler. Parce qu'il y a toujours un voile épais qui sépare l'être pécheur de la présence de Dieu, de l'acceptation auprès de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose. Et quand ce cri a été lancé, ce cri de victoire a été lancé sur la croix, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire, parfait. L'œuvre est faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile a été déchiré. On a du mal à imaginer cela, parce que ça veut dire quoi ça? Ça c'est un vrai miracle. Mais le voile qui était fait, vous retournez dans le Pentateuque, les livres de Moïse, et vous allez voir que ce voile en fait c'était quelque chose d'extrêmement épais. Il y avait plusieurs couches tissées. Hier je m'amusais à faire une frange à un pantalon qu'on a transformé en short. Alors, c'est très difficile d'effilocher, bien que ce soit fait en Chine. Ils ont vraiment serré, hein. C'était de la bonne qualité, pour une fois. Alors j'avais beaucoup de mal à effilocher la chose. Comment est-ce qu'on peut effilocher le voile qui sépare l'homme pécheur de la présence de Dieu? Ce n'est pas fait par des Chinois, hein. C'est serré, serré, serré. Il y a trois couches tissées. Impossible. Et là, voilà que le voile se déchire de haut en bas. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Dieu qui le fait parce que l'homme, grand H, a fait l'œuvre. Et David savait cela par la foi que Dieu lui donnait. Parce que quand il voyait le souverain sacrificateur aller derrière le voile, là, David lui-même n'a pas le droit d'aller. Ne peut pas. Il ne fait pas partie de la bonne tribu. Mais quand il le voit, il sait alors qu'un jour viendra celui qui n'est pas un sacrificateur comme ce petit sacrificateur-là, mais un sacrificateur qui dure. Il sait qu'un jour vient et ce voile disparaîtra. Disparaîtra. Et alors c'est le repos, n'est-ce pas? Le repos dont on a parlé tout à l'heure. Le repos dont on a lu, on peut même dire le repos dont on chante, quel repos céleste, n'est-ce pas? faut pas nous arrêter à la mélodie, aux beaux phrasés musicales, mais quel repos céleste. Et vous savez que la version originale de ce cantique a été composée alors que cet homme-là, l'auteur, était en train de tout perdre. Situation difficile pour difficile. Il venait de perdre toute sa famille dans un naufrage. Il avait perdu sa richesse, tout. Il avait fait banqueroute, on appelait à cette époque-là, et ainsi de suite, tout. Et il s'assoit et il écrit. Quel repos céleste. En fait, dans l'original, c'est « Tout est bien pour mon âme ». Maintenant, ce monsieur-là est passé, David est passé, et ainsi de suite, nous sommes ici. Et franchement, le cœur a de quoi se liquéfier. Et c'est simplement la grâce de Dieu qu'on ne voit pas la moitié de ce qu'on devrait voir. Quel va être notre appui, mes amis? Quel va être votre appui? Est-ce que c'est chez les conseillers et suivre les conseils des conseillers, fuir dans la montagne? Alors dans la montagne, il y a certainement le calme, il y a certainement la protection. Parce que David est resté longtemps dans les montagnes de Judée et Saül n'a jamais réussi à le toucher. Il n'a pas fait. Donc il y a toutes ces choses-là. On peut méditer dans la montagne et ainsi de suite et tout, et vous êtes loin du brouhaha, de la société. Combien de gens font cela? Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Ou bien, est-ce que par la grâce de Dieu, par la vie qu'il donne, nous pouvons dire, mais comment est-ce que je peux même, moi, envisager ça? Qui suis-je? Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis plus n'importe qui. Fils du roi. N'est-ce pas? Et c'est exactement le défi que ce psaume nous lance. Et en fait, par la foi, nous saisissons que le méchant est dans une position extrêmement difficile. Vous vous rappelez cet autre psalmiste, psaume 73, le fils de Corée, n'est-ce pas? Où il disait, mais la difficulté m'est apparue grande à mes yeux. Et je vais simplement citer comme ça. Jusqu'à ce que j'aille dans ton sanctuaire. Et là, n'est-ce pas? Là, il est face à ce voile. C'est ce qu'il voit dans le sanctuaire. Hein? Face à ce voile. Et là, il comprend. Tu les places dans des endroits glissants. Et c'est ce vieux pasteur des années passées, précédentes, du passé, qui disait, en fait, un endroit glissant, c'est terrible. Parce que la seule chose qui est contre nous, c'est notre poids. Si on n'avait pas de poids, on ne glisserait pas. Hein. Vous avez essayé de monter une pente sur la glace, mais votre poids vous interdit de le faire. C'est ça. En fait, la méchanceté du méchant l'entraîne dans la perdition. C'est pour ça que Dieu n'est pas en panique. Et c'est dans ce sens-là qu'on ne le sera pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà accompli l'œuvre. Avant même qu'il y ait un pécheur, il avait déjà prédestiné un sacrifice pour le péché. Et regardez ce qu'il disait dans ce passage que Philippe nous a lu au psaume 91. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. » C'est un peu difficile parce que souvent dans les psaumes, ça alterne entre de qui il s'agit. Et c'est un peu comme s'il y avait des visions intermittentes de Jésus-Christ. On se rappelle que les psaumes, c'est les prières de Jésus. Hein? Et c'était aussi l'encouragement de Jésus. « Aucun malheur ne t'arrivera. » C'est une promesse pour Christ, ça. Il y en a beaucoup qui se disent « Mais je peux faire n'importe quoi parce qu'aucun malheur ne m'arrivera. » En disant cela, ils montrent que probablement ils sont déjà dans le malheur. Mais là, c'est une promesse qui est adressée à Christ. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il ne s'agit pas de Christ, là. C'est de Christ dont il s'agit, et le diable sait, n'est-ce pas? C'est ça qu'il cite à Jésus. Et Jésus lui dit, mais attends, non, là, ça concerne David, c'est pas moi. Non, non, non. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau. Alors l'autre avec son arc, c'est rien du tout. Hein. Et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. De qui s'agit-il? Vous vous rappelez Ésaïe 53? C'est pratiquement les mêmes mots. Hein? Et pourtant, sur la croix, il n'y avait pas de voix qui répondait. N'est-ce pas? Dieu a glorifié son Fils par la croix. Et aujourd'hui, il va demander à son peuple parfois de traverser la fournaise, de traverser la difficulté. Il n'enlève pas la difficulté, non, non. Parce que c'est ainsi qu'il se fait connaître. C'est ainsi qu'il se manifeste. Rappelez-vous les trois Hébreux. Et les trois Hébreux, on parle de gamins. Je ne veux pas parler d'une façon dérogatoire, mais ils n'avaient pas plus de 18 ans, les trois Hébreux à l'époque. Pas plus, pas possible. Bon, on va mettre la télé à 20 ans, ok? Et là, ils sont devant le roi. Ce n'est pas le roi, c'est le grand roi, n'est-ce pas? Et l'autre leur dit, bon, allez, vous revenez sur vos paroles et tout ça. Non, notre Dieu est capable de nous délivrer. Et s'il ne le fait pas, on ne peut même pas revenir en arrière. Et ils sont jetés dans la fournaise. Est-ce que Dieu peut empêcher qu'ils soient jetés dans la fournaise? Il le peut, hein? N'est-ce pas? Bien sûr qu'il le peut, mais il ne le fait pas. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il est dedans. Il y en a un quatrième dans la fournaise. Et le peuple de Dieu découvre cela sans cesse. Il y a des moments, l'eau passe au-dessus, n'est-ce pas? Et pourtant, on n'est pas submergé. Voilà ce que Dieu a pour son peuple. Et cela donne une résolution aux vrais croyants. La question se pose, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il s'agit de moi? Est-ce que j'ai cela? Oh, je vais faire des efforts. Non! Non! David n'a pas besoin de faire des efforts pour répondre à ses conseillers. Comment pouvez-vous me dire? Vous voyez? C'est le langage du cœur. C'est ce qu'il est maintenant. C'est ce qu'il est. Est-ce que nous pouvons parler comme David? Si nous le pouvons, alors réjouissons-nous. Car il n'y a aucune difficulté qui pourra avoir raison de nous. Et si nous ne pouvons pas le dire, alors allons à Dieu en Christ. Il a donné la justice qui permet au voile d'être déchiré. Il a donné la justice qui lui permet d'être proche et d'exercer sa puissance dans la proximité. Que le Seigneur nous fasse la grâce, qu'il nous donne sa grâce et qu'il nous donne de se réjouir du repos qui est en Christ. Amen.